Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Nouveau Testament utilise des images pour nous aider à comprendre la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse, nous apprenons que l'Église est l'épouse de Christ. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Étienne est de retour parmi nous pour nous en dire plus.
Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, Antoine nous rejoindra pour aborder tout naturellement le thème du mariage. Nos deux séries s'appuient sur l'enseignement de Paul, trouvé dans Éphésiens chapitre 5. À présent, Sandra va nous lire les versets 25 à 27.
Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Merci. Étienne, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons parlé du fait que Christ a purifié l'Église. Il lui a pardonné ses fautes, et à quel prix? En donnant sa vie pour elle. Il est mort sur la croix, à sa place, en portant son péché. Quelle preuve d'amour généreux et insondable!
Merci pour ce rappel. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Nous allons nous pencher sur la suite du texte. Citons-le. Christ a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Autrement dit, Christ, par amour pour son Église, désire l'embellir.
Que voulez-vous dire et en quoi Christ embellit-il l'Église?
Pensons un instant aux cérémonies de mariage. Dans chaque culture, pour se conformer aux traditions, une épouse veut se faire belle pour le jour de son mariage. Alors elle passe beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont elle pourra mettre en valeur sa beauté pour plaire à son époux. Elle désire choisir ses vêtements avec goût, elle cherche à améliorer sa coiffure, son maquillage, et ainsi de suite. Et le jour du mariage, les derniers préparatifs prennent aussi beaucoup de temps, car sa beauté doit éclater devant tous, mais surtout pour son mari. Lorsque Paul évoque ses préparatifs pour bien réussir une cérémonie de mariage, il pense surtout au jour où l'Église rencontrera son époux, Jésus-Christ. Car ce moment arrivera après la résurrection, dans la nouvelle création. C'est seulement alors, en cet instant, que l'Église apparaîtra dans toute sa beauté et qu'elle rayonnera de toutes ses perfections.
Il est vrai malheureusement que dans cet âge présent, l'Église est très loin d'être parfaite. Ses défauts, les divisions qu'on y rencontre, le péché en elle et tant d'autres choses l'enlaidissent.
C'est vrai, Yann, je ne veux pas le nier. Toutefois, ne nous laissons pas troubler par ce qui ne va pas au sein de notre Église. Mais reconnaissons plutôt que Christ est en train de l'embellir. Il est en train de la préparer pour le jour de son mariage, pour ce jour où elle sera rendue parfaite et s'unira à Christ. Dire de Christ qu'il embellit l'Église est simplement une façon de dire qu'il accompagne l'Église vers la sanctification.
Rappelez-nous la signification du mot « sanctification ».
Oui, la sanctification, c'est la croissance du croyant vers une maturité de foi et de caractère. Ce sont des progrès vers la sainteté.
Parfois, le mot « sanctification » a une connotation négative, car il peut nous faire penser à une série d'interdits, à des lois et des règlements, ou à une certaine discipline et des privations.
Vous avez probablement raison, Yann, et c'est pour cela que j'aime bien cette illustration de l'apôtre Paul qui est tirée du mariage. Christ veut embellir l'Église. Il veut faire du chrétien une personne meilleure. Il veut la refaçonner, la recréer à sa propre image, pour que ses qualités reflètent toute la beauté du caractère de Dieu. Il est vrai que la sanctification implique le refus du mal. Nous devons apprendre à dire non aux tentations qui nous sollicitent. Nous devons apprendre à faire mourir les mauvais désirs qui jaillissent dans nos cœurs. Toutefois, En nous détournant du mal, nous nous tournons vers le bien. En dominant le péché, nous donnons la vie aux fruits de l'esprit, dont les qualités sont énumérées par l'apôtre Paul pour que nous les recherchions. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, la vraie beauté se trouve dans les personnes en qui ce fruit a mûri, en qui ces belles qualités rayonnent. Et Jésus-Christ est l'exemple par excellence, en qui ces belles qualités excellent, et nous sommes appelés à lui ressembler. Faire des progrès pour ressembler à Jésus-Christ, voici une toute autre manière de définir la sanctification. Autrement dit, l'embellissement de l'Église consiste à refléter la beauté du caractère de Jésus-Christ.
Merci Étienne. Nous comprenons à présent ce qu'est l'embellissement de l'Église. Mais comment Christ parvient-il à la rendre plus belle?
Christ nourrit l'Église par sa parole. La prédication de la Bible est le moyen principal par lequel Christ embellit son Église. Nous reviendrons sur ce point important lors d'une prochaine émission. Mais en attendant, je voudrais souligner l'aspect communautaire de la sanctification. C'est l'Église entière que Christ embellit. C'est l'Église entière qui est l'épouse de Christ. Parfois, nous pensons à la sanctification de façon très personnelle. Nous avons tendance à séparer la sanctification de l'Église, comme si l'Église n'avait pas d'importance et qu'elle n'avait pas de rôle à jouer. Pour faire des progrès dans la sanctification, il faut participer pleinement à la vie de notre Église. C'est au sein de l'Église que nous apprenons des autres, que nous donnons aux autres, afin que tous ensemble nous fassions des progrès dans notre désir de ressembler à Jésus-Christ. C'est au sein de l'Église que nous nous encourageons mutuellement. C'est au sein de l'Église que nous pouvons nous remettre en question collectivement, nous corriger dans l'amour. Et c'est dans l'Église que nous trouvons un soutien et un accompagnement spirituel. C'est dans l'Église que chacun met au profit des autres ses dons, ses aptitudes, son temps, son amour, afin de collaborer avec Jésus dans son grand projet de rendre son Église toujours plus belle.
Merci Étienne. Nous venons de parler de Christ et de son épouse, l'Église. À présent, et toujours en s'appuyant sur le texte trouvé en Éphésiens 5, Antoine va nous parler du mariage, de cette relation privilégiée qui unit un homme et une femme.
Nous venons d'apprendre que Christ embellit l'Église. Est-il pertinent alors de dire qu'un mari doit rendre sa femme plus belle et qu'une femme doit aider son mari à paraître plus beau? Et si oui, dans quel sens? Comment définir cet embellissement? Antoine est parmi nous pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Un mari doit-il chercher à embellir son épouse comme Christ embellit l'Église? C'est effectivement une question importante et pertinente, et la réponse est oui. Et réciproquement, l'épouse doit penser à la façon de rendre son mari plus beau.
Lorsque l'on parle d'embellir une personne, on pense tout de suite à sa beauté physique. Est-ce dans ce sens-là que vous employez le mot?
La beauté naturelle et l'attirance physique ont leur place, bien sûr, dans le mariage. Et en effet, le mari et son épouse peuvent réfléchir à la façon de rendre l'autre plus beau. Ils peuvent contribuer réciproquement à mettre en valeur la beauté physique de l'autre. Cependant, aussi importante qu'elle soit, je pense qu'il faut dépasser cette notion superficielle de beauté physique pour considérer d'autres manières par lesquelles nous pouvons embellir notre femme ou notre mari. Dans ce sens, l'embellissement consiste à aider l'autre à devenir une meilleure personne. J'aimerais aborder cette question sous deux aspects différents.
Merci. Et quel est le premier?
Nous pouvons parler de l'embellissement en termes d'épanouissement de l'autre. Chacun doit avoir le souci d'aider l'autre à être plus heureux dans la vie. Homme, votre femme a-t-elle des ambitions et des aspirations éducatives ou professionnelles? Comment pouvez-vous l'aider à réaliser ses projets? Ils contribueront à son épanouissement, ils feront d'elle une personne plus heureuse et plus belle. Femme, votre mari a-t-il des centres d'intérêt particuliers dans sa vie? Quels objectifs vise-t-il? Comment pouvez-vous le soutenir? et ainsi l'aider à devenir un homme meilleur. Bien sûr, lorsqu'un projet précis se présente, il faut beaucoup discuter en couple pour voir s'il est réalisable et quel soutien et quels sacrifices seront nécessaires. Il ne faut pas trop exiger de l'autre. Il ne faut pas non plus que la réalisation de projets personnels mette en danger la vie du couple ou conduise à négliger des responsabilités importantes au sein de la famille. Il y a des justes équilibres à trouver par la négociation. Ceci dit, il est bon de vouloir favoriser et faciliter l'épanouissement de sa femme ou de son mari.
Merci Antoine. Et quelle est la deuxième leçon que vous voulez évoquer?
Tout à l'heure, Étienne a parlé de l'embellissement de l'Église, surtout en termes de sanctification. Car Christ aime l'Église et il veut favoriser ses progrès vers la beauté de la sainteté. De la même manière, au sein d'un mariage chrétien, la sanctification doit être une préoccupation importante. Autrement dit, un mari et sa femme peuvent se soutenir mutuellement sur le chemin qui conduit vers une maturité de foi et de sainteté. Un mari et sa femme doivent s'encourager mutuellement à ressembler toujours davantage à Jésus.
Comment faire?
En établissant des habitudes simples, telles que prier ensemble et lire la Bible ensemble. Il est très facile de négliger ces moments, mais ils sont essentiels pour favoriser un mariage solide et l'embellissement spirituel d'un homme et de sa femme. La participation à une vie d'Église est aussi importante. Pour finir, je voudrais évoquer quelque chose qui pourrait devenir problématique.
Je vous en prie, de quoi s'agit-il?
En tant que couple marié, nous voyons de près tous les défauts, toutes les fautes, les erreurs et les mauvaises habitudes de notre femme ou de notre mari. Il y a lieu, dans ce souci de sanctification, d'en parler à notre conjoint, dans l'espoir qu'il s'améliore pour faire des progrès dans son désir de ressembler à Jésus-Christ. Toutefois, un danger existe, celui de tomber dans un engrenage de critiques incessantes et de reproches sévères, parfois réciproques. L'amour disparaît et au lieu d'avancer sur le chemin de la sanctification, on recule. Toute tentative de remettre notre conjoint en question ou de corriger ses défauts doit s'accompagner de beaucoup d'amour. Or, cet amour s'exprime par la grâce, la patience et la douceur. Oui, il y aura des problèmes de comportement à relever, mais il faut beaucoup de sagesse pour savoir comment y parvenir.
Merci Antoine pour ces leçons importantes. Nos deux séries s'appuyant sur Éphésiens chapitre 5 se poursuivront la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, chers amis, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.